un musée pour les déchets. Donc là, j'ai choisi d'aborder en fin de compte la question du déchet du point de vue esthétique, puisque l'esthétique, c'est la forme. Hein. Et quand on entend la parole esthétique, bien souvent, on se dit, bon, c'est quelque chose de beau, par exemple, hein, si on veut faire un raccourci. Donc, est-ce qu'il y a une esthétique du déchet? Est-ce qu'il y a une esthétique de l'ordure? Eh bien, avec Ettore Guattelli, je pense qu'on peut avoir une première réponse. Donc, je vous le présente là, le voilà. Monsieur Guattelli est mort il n'y a pas très longtemps, hein. Mais il est donc à l'origine de ce musée, un peu particulier, vous allez voir, même très particulier. Et j'ai pensé qu'une vie d'ordure, c'était un terme qui correspondait en tout point au projet, justement, de Ettore Guattelli, puisqu'il a fait des ordures et de l'ordure une sorte de science archéologique. C'est-à-dire qu'il est allé fouiller là où normalement on ne regarde pas, parce que c'est sale, c'est repoussant, c'est usé, c'est cassé, et ça ne nous intéresse pas. Donc on a plutôt l'intention de cacher, de dissimuler. Donc celui qui a fait des ordures une science archéologique, parce qu'il allait justement récupérer, fouiller dans les décharges, des objets abandonnés, des détritus. Et c'est une démarche, vous pouvez imaginer, qui dans les années 60-70, en pleine expansion économique, était loin d'être courante. Et pour ce qui est, par exemple, de la campagne de Ettore Guattelli, c'est une démarche qui suscitait surtout le mépris, je dirais. Hein, plutôt le mépris, c'est-à-dire qu'il a été pendant longtemps très mal compris, très mal accueilli. Pourquoi ? Parce que à l'origine, Guattelli est un paysan, un maître qui est devenu aussi maître d'école primaire. Et son travail d'artiste, de collectionneur, l'a fait surnommer le maître chiffonnier par les habitants de la région. Et maître chiffonnier avait vraiment une intention ironique. Si vous allez taper sur Internet, justement, musée Guattelli, eh bien, vous pourrez voir que vous avez un site qui vous raconte un peu toute cette histoire, disons, de sa vie, de son parcours, de pourquoi il a fait ça. Et donc, je ne vais pas m'arrêter trop sur les détails, mais plutôt sur la réalisation, sur le contenu. Donc, ce musée, comme je vous le disais, il se trouve dans la province de Parme et il nous confronte à une esthétique, ce qu'on pourrait appeler une véritable esthétique du rebut. J'ai dit qu'il était mort en 2010, non, il est mort dans les années 2000. Hein. Il est né en 1921 et il est mort dans les années 2000. C'était un maître paysan avant de devenir justement ce maître chiffonnier, ce maître d'école, et de renoncer au travail de la ferme dans les années 1960, quand justement en Italie, le miracle économique commence à bouleverser les modes de production et de consommation de la vie, et la vie des Italiens. C'est cette époque où, si vous voulez, entre dans les maisons des Italiens, après la phase de reconstruction, arrivent les voitures. Vous connaissez sans doute la fameuse Fiat 500. Il y a comme ça des objets emblématiques. Arrive le cinéma, et notamment les films américains. Arrive la télévision. Arrive l'électroménager qui va libérer la femme, bien sûr. Et arrive comme ça toute une modernité qui arrive dans les pays occidentaux en général, dans les pays européens, mais qui, disons, produit peut-être un choc plus fort, à tel point qu'on va l'appeler le boom économique, le miracle économique, dans un pays qui était jusque-là surtout un pays agricole, qu'on pouvait désigner comme arriéré. Bon, le terme est péjoratif, mais surtout pour un Guattelli, mais au sens où, voilà, très peu développé du point de vue industriel. Et donc, le choc est d'autant plus grand. Ça veut dire que les modes de consommation vont évoluer, vont changer, et on va se mettre justement majoritairement à jeter. Hein, c'est-à-dire que ces objets traditionnels, ces vieux habits, comment dire, reprisés, etc., eh bien, on les jette pour acheter du neuf, hein, des choses neuves, des choses plus brillantes, des choses qui disent une vie plus moderne. Alors cet homme-là, il a une conception un peu différente et il va décider, en continuant à habiter sur les lieux avec sa famille, il va décider d'en faire un lieu des objets abandonnés. Pour lui, c'est une façon de conserver la mémoire des paysans dont il fait partie et qui, au fil du temps, va devenir un musée, mais je dirais sans qu'il y ait véritablement de projet de musée. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il accumule tout simplement dans sa ferme, dans sa maison. Seulement, il a un sens artistique, il a un sens esthétique particulier, vous allez le voir, qui fait qu'à un certain moment, à force d'accumuler, eh bien, ces objets vont finalement faire musée. Alors, il conçoit ça comme une sorte d'entreprise de sauvetage, des reliquats, des restes, des rebuts, d'un monde qui disparaît. Et comme je vous le disais en introduction, c'est une démarche qui est accueillie avec une grande hostilité, notamment de la part des paysans, dont ils voudraient conserver la mémoire. Une grande hostilité parce que ces paysans, ces compagnons de labeur, se sentent offensés par son entreprise, par son idée, par cette mise en lumière des origines modestes, justement, de leurs origines les plus modestes. Ce qu'ils considèrent comme un monde avec lequel on devrait tourner la page. Donc, cette façon qu'a Guattelli de remettre en lumière, finalement, une vie misérable, une vie miséreuse qu'on voudrait cacher, une vie d'autrefois, ça leur fait honte. Donc, dans un premier temps, la démarche de Guattelli, elle fait honte parce qu'elle est un témoignage de la misère, de l'indigence, et c'est ce que va justement raconter ce musée. Donc, vous voyez ici la salle principale, et vous n'oubliez jamais que c'est son lieu de vie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé avec sa famille, si j'ai bien compris, famille qui parfois était un peu lassée par cette manie du collectionneur, il n'a jamais cessé d'accumuler et d'habiter dans cette maison. Hein. C'est pas, à son sens, ça n'est pas un musée. Ça devient un musée quand Ettore Guattelli disparaît. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est juste un lieu de vie, c'est juste un lieu d'habitation. Alors, voilà pourquoi ils le surnommèrent le maître chiffonnier, car c'était celui qui recueillait des objets usés, inutilisables à leurs yeux, des objets cassés, abîmés, jetés, et que l'on voulait idéalement remplacer. Il recevait un tas de courriers, à l'époque, pas des textos et des tweets, mais tout simplement des lettres anonymes, hostiles. Il irritait ses proches, sa famille, en les privant d'espace vital au fur et à mesure de son accumulation. Et bien sûr, il bataillait avec sa banque car il avait régulièrement des soucis financiers étant donné que, au lieu de vendre des objets neufs, il récupérait des objets sans valeur pour les disposer dans son salon, dans sa chambre à coucher, partout. C'est une attitude étrange, surtout dans les années 60-70, du fort consumérisme. Hein, c'est une parole qui est inventée, c'est un mot qui est inventé à cette époque-là. Et donc, c'est une sorte de contre-culture qu'il nous propose, anti-consumériste. Et il est donc jugé arriéré, inutile, un projet néfaste, finalement. Il faut rappeler que dans le débat historiographique, c'est-à-dire qui raconte comment l'histoire s'est construite, dans le débat historiographique contemporain, on va plutôt dénoncer un excès de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a trop de mémoire, on ne sait plus quoi en faire. Hein. Comment finalement séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui est utile à étudier de ce qu'il faudrait oublier. Et puis, il y a parfois aussi le refus d'une vision un peu trop nostalgique, enjolivée du passé. Et lui s'inscrit en faux par rapport à ça, c'est-à-dire tout objet, même le plus humble, a une certaine dignité, une certaine valeur à être conservé. Et d'autre part, il s'inscrit en faux par rapport à ce qu'on peut voir, c'est-à-dire, vous voyez, les musées de la ruralité, ces espèces d'endroits où on voudrait reconstituer un habitat, un petit paradis perdu, où on vous montre, par exemple, combien le 19e ou le début du 20e siècle sont maintenant des endroits devenus un peu exotiques parce qu'ils ont disparu, et artificiels, un peu sans lien avec la réalité. Souvent, on reconstitue un habitat. Alors, vous voyez, vivez là, il y avait le lit, il y avait la baignoire, quand il y en avait une, il y avait les objets pour les enfants, etc. C'est pas du tout le projet, disons, entre guillemets, folklorique du musée Guattelli, parce que, encore une fois, au départ, ça n'est pas un musée, c'est une collection. Donc, Guattel, il voudrait raconter autre chose. La promiscuité des corps, la rudesse des conditions de vie des travailleurs, sans aucun accès au confort. Et il va d'ailleurs le raconter dans un journal intime qu'il va tenir tout au long de sa vie. Donc, ce n'est pas une histoire de type national populaire. On va vous raconter l'histoire de l'Italie, disons, par l'histoire de son petit peuple. Ce n'est pas un musée du folklore paysan, ces sortes d'habitats reconstitués, un peu pour des espèces disparues ou en voie de disparition. C'est bien la récupération d'une mémoire ignoble, hein? C'est-à-dire donner un statut anoblissant, on va dire, à ce qui est a priori ignoble. L'ignoble, c'est ce qui ne fait pas partie de notre monde, c'est ce qu'on ne peut pas montrer. Ça rejoint aussi un peu l'obscène, hein? C'est ce qui ne mérite pas d'être montré, ce qui ne fait pas partie de la communauté de notre monde. Et il y a dans le projet Guattel, et au contraire, le projet finalement de réhabiliter une histoire et de se positionner en quelque sorte à contre-courant d'une solitude. Celle d'un homme qui est finalement fondamentalement quelqu'un de fragile et qui s'est toujours vécu comme un perdant. Il n'avait pas du tout le sentiment de devenir comme il est aujourd'hui, parce que le musée est très visité, vous le verrez, par des personnalités du monde artistique, cinématographique, littéraire. Et il se vit plutôt comme un perdant, comme quelqu'un qui raconte une histoire qui n'intéresse pas grand monde, à part lui et puis quelques dingos alentour. C'est ce que nous raconte un anthropologue qui était venu d'ailleurs pour ce colloque qui portait sur l'or et l'ordure, un anthropologue qui était un ami de Guattel, qui s'appelle Pietro Clemente, et qui est un des premiers à essayer de valoriser ce travail de Guattel. Son action, donc, avant même de parler de son œuvre, hein, parce qu'il ne s'est finalement pas vécu comme un artiste, à part peut-être à la fin de sa vie. Il n'a pas eu conscience de faire œuvre. Son œuvre se confond finalement avec sa vie. Son œuvre, c'est sa manière de vivre, c'est sa forme de vie, c'est sa façon d'agir. Et donc, son action, elle débouche sur un discours iconographique à visée esthétique, mais qui n'est pas du tout théorisé. C'est-à-dire, il n'a pas fait des écrits, il a tenu un journal, il a raconté sa démarche, mais il n'a pas spécialement théorisé sur son entreprise. Il est surtout porté par une volonté tenace de produire un mode de connaissance original, à travers l'attention portée aux choses que l'on jette, à travers l'attention portée aux chiffonniers, aux décharges, qu'il considère, lui, comme des sites archéologiques. C'est-à-dire, c'est là que sont enfouis dans la décharge, c'est là qu'on va trouver la mémoire d'un temps qui est en train de disparaître ou qui a déjà disparu. Il fouillait donc pour trouver dans les décharges des objets abandonnés qu'il récupérait. Il faisait des fiches, il prenait des notes afin que les objets parlent et transmettent la voix de ceux qui n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément témoigné dans l'histoire et donc on n'a pas forcément de traces. Donc, ce que vous voyez là, justement, c'est le salon principal qui est, comme je vous le disais, son lieu de vie et dans lequel, là, il a surtout accumulé des outils, hein. Ce sont essentiellement des outils usés, jetés, ramassés. Mais vous voyez qu'il y a une intention esthétique dans la mesure où il les dispose. Il ne les a pas jetés en tas, il les a disposés contre les murs. Et je peux vous assurer qu'il y a un certain effet esthétique. Donc on va des outils aux chaussettes sales, hein, disons-le carrément. Vous voyez, c'est vraiment le. J'ai pris les chaussettes parce qu'on dit souvent les vieilles chaussettes. Voilà, ce sont des expressions qui sont passées dans le langage courant pour dire c'est vraiment l'objet qu'on veut pas garder, surtout si elles sont sales, trouées, un peu odorantes. Hein, on va pas les conserver. Alors lui, au contraire, c'est le genre d'objet qui les intéresse, qui l'intéresse. Et vous voyez qu'il y a tout de suite un souci de ordonner. Disposer, ordonner pour donner une certaine visée esthétique à l'objet le plus humble, à l'objet le plus ignoble. Donc là, à dessein, je choisis donc la chaussette pour vous le montrer. Donc son idée, c'est de proposer une sorte de point de passage qu'on pourrait appeler spatio-temporel entre un monde vécu mais refoulé, hein, refoulé c'est quand on ne veut pas le garder en mémoire, hein, soyons clairs, et un présent technologique, celui des nantis, celui qui peuvent se permettre de changer d'objet, de changer de chaussettes par exemple, dès qu'elles sont sales, et qu'ils considèrent être justement des ignares. Et de créer donc une zone de contact entre ce monde de la technologie nouvelle qui remplace, qui jette, et ce monde ancien, refoulé, qu'on ne voudrait plus voir. Une zone donc qui va explorer la limite. Où est-ce que je mets la limite? Et là, il nous le dit avec ses vieilles chaussettes. Elle est où la limite entre l'utile et l'inutile? La limite entre le beau et le laid? La limite entre ce qui est précieux ou ce qui est vil, sale, et finalement la limite entre ce qui est noble et ignoble. Donc il nous invite un petit peu à réfléchir à cette frontière, à cette limite. L'idée est vraiment de conférer à ces objets une noblesse qui est de type muséal. C'est-à-dire qu'en général, qu'est-ce qu'on met dans les musées? On met des objets dignes d'être montrés, hein. Évidemment, il ne vient pas normalement à l'idée, du moins jusqu'à l'art contemporain, on va dire. Il ne vient pas tellement à l'idée d'aller exposer un objet justement qui aurait été jeté ou alors qui est reproductible, dont on peut retrouver des dizaines de fois la même chose. Vous voyez là, manifestement, il n'y a pas d'originalité dans l'objet. L'objet n'est pas précieux en soi, il n'est pas unique, il n'est pas spécialement beau et il n'est plus utile. Donc, il a perdu sa fonction, etc. Mais en le disposant sur des murs, il nous rappelle, il veut nous rappeler qu'il a une histoire. Il raconte les gestes, il raconte les gestes répétitifs à l'infini de ces paysans qui se sont servis de tous ces outils. Et donc, il réinsère une notion à la fois de beauté, d'utilité, de noblesse. Hein, c'est comme ça qu'il procède. Donc, on a parlé à propos de Guattelli de Louvre paysan. Donc, je ne veux pas aller trop vite. Louvre paysan, c'est-à-dire que, voilà, ces objets-là, ces objets oubliés, ces objets négligés, qui appartiennent, disons, au monde de l'ordure ou du déchet, est-ce qu'ils méritent un musée? Est-ce qu'ils méritent d'être exposés? Ben, quelque part, Guattelli nous montre que oui. Et notamment, on le voit, parce que je vous ai montré cette reproduction-là, ce n'est pas un hasard, justement, ce monde de paysans, il a été mis en scène. Il a d'abord été peint par un peintre qui s'appelle Pellizza da Volpedo en 1901, hein, donc à peu près d'un contemporain. Bon, il est né en 1921, Guattelli, et qui s'appelle le quatrième état, le quart état, hein, en référence au tiers état, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après le tiers état en référence à la Révolution française, bien sûr, eh bien, il y a encore le quatrième, c'est-à-dire ce monde des oubliés, les oubliés des oubliés, les ignobles des ignobles. Hein. Donc, c'est un tableau très célèbre qui se trouve au musée de l'Académie à Milan, il y en a plusieurs. Et pourquoi je vous parle de ça? Ce sont les paysans de la Métairie, de ce qu'on appelle la Mezzadria, de l'Émilie, auxquels, justement, Bernardo Bertolucci a consacré un film très célèbre qui s'appelle 1900, Novecento, en italien, en 1976. Et pourquoi je vous montre ce tableau? Bien parce que il s'est servi à la fois de cette peinture typique de ce Novecento qui commence, hein, de ce XXe siècle qui commence, pour l'affiche de son film. Et où est-ce qu'il est allé chercher, puisqu'on est en Émilie avec Guattelli, où est-ce qu'il est allé chercher les objets dont il avait besoin pour son film? Il est allé les chercher chez Ettore Guattelli. Hein. Donc voilà, c'est vraiment cette mémoire paysanne. Et donc Bernardo Bertolucci, c'est un grand réalisateur. Hein. Voilà, donc on connaît maintenant très très bien le nom. Il fait partie des grands metteurs en scène italiens. Donc voilà pourquoi à un certain moment, le regard va aller se porter justement vers Guattelli. Alors, mémoire ouvrière, mémoire paysanne, mémoire de ce quatrième état, représenté par Pellizza da Volpedo, et aussi par un metteur en scène célèbre. L'originalité, pourquoi ce n'est pas un musée tout simplement folklorique où on reconstitue un habitat? C'est parce qu'il y a une qualité esthétique dans ce musée. Cette mise en lumière des objets de l'ombre, correspond à une recherche esthétique, comme je vous le disais en introduction, à la fois innée, c'est-à-dire qu'il a des talents comme ça d'artiste, hein, ce Ettore Guattelli, et puis petit à petit, à force de le faire, de disposer tout simplement les objets sur les murs, eh bien, il va ordonner et puis se mettre à la recherche d'un certain canon esthétique qui est le sien, tout simplement. Donc vous voyez là, par exemple, ce qu'on a appelé, et ce qu'il a appelé lui-même, et ce qu'on a appelé l'art pariétal, c'est-à-dire l'art de disposer des objets, ou de dessiner, hein, l'art de disposer des objets sur un mur et de leur donner forme. Et là, on voit très bien qu'il a été quand même largement inspiré par la forme de la rosace, tout simplement les rosaces qu'on trouve dans les églises ou qu'on trouve dans les cathédrales. Mais c'est une rosace constituée d'objets pauvres. Vous voyez qu'il y a des pinces, des tenailles, etc. Tout un tas d'objets que vous pouvez reconnaître. Donc, et des objets qu'il met en scène. Hein, là, on est toujours dans le salon. Vous voyez, il y a des formes de bottes. Il y a ces fameuses formes pour les chaussures. Des chaussures elles-mêmes, beaucoup de chaussures. Des outils, il y a beaucoup d'outils. Des machines qui ne servent plus et qui sont donc disposées selon son... sa fantaisie, disons, dans ces différents lieux de vie. Alors, on est quand même surpris par la radicalité, hein, c'est quand même un art radical de son écriture pariétale, l'écriture sur les murs, au moyen d'objets. Et certains ont dit, mais là, c'est la culture paysanne qui... finalement, il nous raconte un peu l'épopée, hein, de la culture paysanne, c'est-à-dire comme une grande aventure. La culture paysanne se fait épique avec cette incroyable quantité d'objets qui vont former des lignes esthétiques très suggestives, mais sans jamais perdre leur caractère fonctionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reconnaît quand même l'objet. Hein, il ne les dilue pas dans un ensemble qui nous ferait perdre la connaissance de l'objet. On voit très bien qu'il s'agit de chaussures, on voit très bien qu'il s'agit de formes, on voit très bien qu'il s'agit d'outils. Donc, il arrive à concilier, disons, une mise en scène de l'objet fonctionnel, nous rappelle sa fonction, et en même temps avec un ordonnancement, disons, esthétique, qui est le sien. Donc, cet art de disposer des objets, les objets les plus humbles, c'est une forme, dit-il, d'écriture publique. C'est comme ça que je raconte, je n'ai pas besoin de prendre la plume, c'est une forme d'écriture publique qui est finalement le reflet de son univers mental et social, et aussi l'univers auquel il appartient. Univers mental, parce que certains ont pu dire, bon, cette obsession d'accumulation, parce qu'après, il y en avait encore autant dehors, hein, je vous montrerai, qui n'a pas eu le temps de disposer. On voit qu'il y a une forme, je ne sais pas, de fétichisme, de folie, de la collecte. Il y a quelque chose qui fait presque un peu peur. Hein, il y a quelque chose quand même du pathos dans cette accumulation. Donc, par exemple, quand on arrive dans l'escalier, on voit toute cette accumulation de paniers qui, nous dit Guattelli, raconte l'âge du pain. Quand le travail dans les champs concrétisait le lien profond qui unit les hommes et la vie. Il s'agit bien de reconstruire l'imaginaire de ceux qui ont utilisé ces paniers. Le travail qui sous-tend cette collecte, cette collection, cette quête, a pour but de récupérer des biens et à transmettre à travers ces récits iconographiques l'histoire de ceux qui les ont possédés. Ceux qui appartiennent à la ruralité pré-industrielle et artisanale et qui étaient à l'époque de Guattelli ou qui avaient déjà disparu ou qui étaient en cours de disparition. Il s'agit aussi de conserver des savoirs et des savoir-faire, des modes de vie qui n'ont été confiés, dit-il, qu'à la tradition orale, à travers les récits, les légendes, les contes. Mais là, il nous les figure, il les met en scène. Les paniers qui sont disposés au plafond de l'entrée principale permettent d'emprunter le grand escalier qui nous mène aux différentes pièces, et ils sont suspendus comme ça en foule compacte, et leur profusion, à mon sens, raconte à la fois leur grande banalité, parce que ce sont des paniers comme d'autres paniers, ils n'ont rien de spécifique, et en même temps leur caractère essentiel, c'est-à-dire que c'était un objet essentiel pour le paysan de l'époque. Comme ils sont disposés en hauteur, hors d'atteinte, ils semblent désormais inaccessibles aux visiteurs, comme la dernière image un peu fugace qui évoque la silhouette évanoui de ses porteurs de panier, hein, le fait d'avoir choisi de les mettre tout en haut. De même que, par exemple, cette accumulation d'horloges qui, évidemment, ne fonctionne plus puisqu'il les a récupérées dans des déchetteries, dans des poubelles et autres décharges. Le temps des horloges, vous voyez, telles qu'elles sont disposées, nous raconte un temps qui se lisait justement sur les horloges, hein, et non pas sur les smartphones, par exemple. Et qui nous raconte aussi, avec les valises, le temps où les Italiens émigraient. Et donc, cette accumulation de valises nous raconte l'émigration italienne. Et je dirais qu'en collectionnant les choses usées à la limite de l'inutilisable, il détruit aussi le dogme de l'objet muséal, c'est-à-dire le dogme du beau, du précieux, de l'unique, de l'intégrité fonctionnelle de l'objet. Car ici, finalement, à un certain moment, les objets ne valent que par leur forme et leur disposition. Et il va aussi conférer une valeur à l'usure même de l'objet. Le fait même que l'objet soit usé, contrairement à l'idée que s'il est usé, justement, on s'en débarrasse. Et par là, il critique, il pose une charge critique intentionnelle, implicite, au consumérisme et au productivisme de son époque. Et finalement, il commence à hésiter entre le statut de l'artiste et celui du collecteur-collectionneur, même si, évidemment, son travail n'est pas surgi de nulle part. Il rencontre le travail de ses artistes contemporains de son époque. On peut penser aux surréalistes, on peut penser au pop art, on peut penser à l'art pauvre. Évidemment, il y a des liens quand même très forts avec ces formes d'art qui sont fondamentaux dans le domaine de la muséographie et de l'ethnographie du XXe siècle. Le nouveau regard, évidemment, on pense à Marcel Duchamp, porté sur l'objet d'art manufacturé, sur l'objet technologique envisagé comme geste artistique. Donc, il a une démarche personnelle, je dirais quand même extrêmement originale, et en même temps, il s'inscrit quand même dans un courant artistique, dans un courant de pensée qui est celui de son époque. Pour décrire sa collecte, il avait recours à l'expression « musée du quotidien », c'est-à-dire des choses d'usage commun. Il l'appelait aussi, curieusement, le musée de l'évident. Hein? Alors là, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à saisir. Qu'est-ce que c'est que ce musée de l'évident? C'est-à-dire ce qu'on avait peut-être sous les yeux, mais qu'on ne savait pas regarder, et sur lequel il pose son regard. Me semble-t-il, ça pourrait être une des possibilités d'explication. Je reviens sur la rosace parce que manifestement c'est une forme qui l'inspire. Alors cette rosace des objets pauvres, avec cette rosace des objets pauvres, j'ai le sentiment qu'il a l'intuition qu'il existe dans l'objet le plus pauvre, le plus commun, y compris et surtout dans l'objet déchet, une énergie créative potentielle, une sorte de beauté intrinsèque qui attend son révélateur, son libérateur. Bon, il y a quelque chose qui est enfermé dans la forme et qui attend son artiste libérateur pour en montrer la beauté. Donc j'ose le parallèle, pour le dire avec Michel-Ange, qui disait « j'ai vu l'ange et je l'ai libéré » dans la forme de pierre. Donc j'ose le parallèle, c'est-à-dire il se place en quelque sorte en artiste démiurge, en artiste révélateur de la beauté que l'on ne voyait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'objet, pour Guattel, l'objet du rebut, le déchet, l'ordure, n'est pas beau malgré son statut d'ordure ou de déchet, mais à cause de lui. C'est parce qu'il a été jeté que quelque part il s'y intéresse. La qualité de l'objet du rebut, d'objet du rebut, lui confère une charge émotionnelle. C'est-à-dire que, vous voyez là, ce sont toutes des formes pour mettre en forme les chaussures. Pourquoi on met en forme les chaussures? Ben parce qu'il faut les adapter, hein, il faut qu'elles aillent au pied. Et donc, ce sont ces formes qu'utilisait le cordonnier. Et ça veut dire que les chaussures, on ne les jette pas, on les répare. On va encore chez le cordonnier, la démarche qu'on est peut-être en train à nouveau de faire, hein, en se disant, arrêtons de jeter nos vieilles godasses et retournons chez le cordonnier pour les faire réparer. Alors lui, il a l'intuition que cet objet qu'il a récupéré dans la décharge, la vieille forme qui ne sert plus parce qu'on ne va plus chez le cordonnier à son époque, cet objet est porteur d'une charge émotionnelle particulière. On l'a jeté parce qu'on n'en avait plus besoin, parce qu'on voulait se débarrasser de ses modes de vie, de ses savoir-faire. Et il y a quelque chose aussi d'affectif dans cet objet parce qu'il a été jeté. En quelque sorte, il lui ordonne une âme à ces objets, si vous me permettez le raccourci. Donc, il s'intéresse à une beauté d'un autre ordre, je dirais qu'il donne le vertige. On a parlé quelque part un peu du pathos de Guattelli, de cette folie accumulatrice d'accumulation. Et ce n'est pas un hasard si on trouve justement dans le livre de Umberto Eco, qui s'appelle Le vertige de la liste, eh bien on trouve justement une photo du musée Guattelli que Umberto Eco, que vous connaissez probablement, c'est celui qui est l'auteur du Nom de la Rose, qui était un sémiologue extrêmement célèbre. Et bien dans son livre, il a choisi le musée Guattelli, entre autres, pour illustrer ce vertige de la liste. Là, vous voyez donc une photographie de l'escalier qui mène au salon principal et qui, justement, nous donne, quelque part, le vertige de l'accumulation, le vertige de la liste, quelque part, nous donne le tournis. Vertige de la liste, là, que je retourne au salon, parce que vous allez y trouver cette folie de marteau, pince, pelle, ciseaux, tonneau, mortier, qui recouvre tous les espaces des murs, y compris les portes, y compris le tour des fenêtres. Rien n'est sauvegardé, rien n'est laissé dans le vide, mais selon une organisation qui suit des motifs géométriques simples. Les outils remplissent aussi les meubles, les étagères du musée, et finissent par produire un effet scénographique assez évident, avec une sorte de stimulation visuelle en mesure d'évoquer, je dirais, à travers un langage muséographique, une intention aussi d'évoquer les gestes quotidiens réels de cette vie paysanne perdue. Et ici, vous voyez bien, quand on parle de vertige de la liste, que c'est l'effet d'accumulation. S'il n'y en avait qu'un seul, en fin de compte, il ne nous parlerait pas. Ce qu'a compris Guattelli, c'est que c'est l'effet d'accumulation, la répétition, l'entassement, l'empilement, je dirais jusqu'à la nausée, l'engorgement, qui crée paradoxalement une sorte de poétique de l'objet pauvre. Un vertige qui finalement désoriente le regard, parce que quand vous rentrez là-dedans, vous ne savez plus trop bien où regarder. Il y en a partout, il y en a trop, il y en a au plafond, il y en a au sol, il y en a sur les portes, il y en a tout autour. Et donc, vous êtes pris de vertige, vous êtes pris de tournu, et vous avez vraiment cette intention de voir tout en même temps. Alors qu'en réalité, c'est l'effet d'ensemble. C'est l'effet d'ensemble qui est véritablement réussi et qui, en général, saisit par cette sorte de beauté étrange. Donc, une poétique de l'objet pauvre, un vertige qui désoriente le regard et les sens, et une interrogation aussi sur le critère retenu par le collectionneur et sur la finalité de cette organisation du monde des choses. Et bien entendu, sur les qualités de cet assemblage. Est-ce que c'est un assemblage, par exemple, fini ou infini? Bon, on a vraiment le sentiment qu'avec un Guattelli, c'est infini. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté quand il est mort. Hein, et que s'il avait continué à vivre, bien, il aurait continué à accumuler, à entasser, à disposer. Alors, il y a quelque chose d'un peu fou dans ce projet. Est-ce qu'on peut tout garder, ne jamais rien jeter, continuer à accumuler les objets et à les assembler et à les recueillir? Mais ça correspond aussi à une vision, à un mode de vie. Un mode de vie qui, à cette époque, consiste à ne rien jeter, justement. Et pourquoi on ne jette rien? Parce qu'on est pauvre. À une époque où manquent les ressources nécessaires à l'acquisition des ustensiles utiles à la vie de tous les jours, il est normal de ne rien jeter, en particulier chez les paysans qui sont dans cet esprit-là. Et qui nous dit Guattelli dans ses carnets, sont donc aussi contraints d'inventer des objets nouveaux, parce que quand il manque un objet, quand il est cassé, quand il est abîmé, eh bien, on va le rafistoler, le raccommoder, le repriser, et on va lui donner éventuellement une autre fonction. Et il a accumulé aussi tous ces objets qui ont été détournés, en quelque sorte. Il manquait un outil, il manquait un objet, il manquait un habit. Alors, on utilise un objet qui n'était pas destiné à cette fonction, et puis on le détourne, hein, en y ajoutant quelque chose. Et donc, cet objet-là, nous dit Guattel, il témoigne de l'inventivité humaine, c'est-à-dire sa capacité à chaque fois à inventer une chose nouvelle avec un esprit d'économie. Un esprit d'économie dans le sens d'épargne, hein, c'est-à-dire faire plus avec moins. Et il me semble que ce musée-là, il nous dit à la fois la folie de l'accumulation, qui peut conduire à étouffer, et il nous dit en même temps, il nous amène à penser l'épargne, la réduction, c'est-à-dire comment le geste, comment le choix de l'objet, comment on essaye de réduire notre production. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est confronté à une urgence écologique particulière, où on commence à penser sérieusement à la finitude de notre monde, où on se dit que, voilà, qu'est-ce qu'on fait des déchetteries. Bon, voilà, on est confronté à ça partout sur la planète. Eh bien, il nous invite à penser ce moins, c'est plus. Hein. Bon, finalement, peut-être qu'on serait moins encombré si on le jetait moins. Le ménage, le message et le ménage peut-être aussi, il est un peu celui-là. Donc Guattel, il nous raconte ce monde fait de misère, mais aussi d'imagination et d'ingéniosité. Donc son projet, c'était, certains ont dit, une sorte de cathédrale gothique des objets pauvres d'une civilisation oubliée et qui nous raconte aussi un temps long, c'est-à-dire le geste artisanal contient aussi la mémoire des siècles qui vont aussi réhabiliter ces objets qui ont servi longtemps. Parce que s'ils sont usés, abîmés, inutilisables, s'il les a retrouvés dans des décharges, dans des poubelles, c'est que, et qu'on les a jetés, c'est que vraiment ils étaient devenus hors d'usage. Et pour être devenus hors d'usage, ces objets qui étaient solides, en général, en bois, en cuir, en fer, en corde, etc., c'est qu'ils ont été utilisés longtemps. En général, ils sont passés de génération en génération, ils sont passés de père en fils, de mère en fille, etc. Donc, ils nous racontent aussi, justement, un temps long, hein, c'est-à-dire où l'objet servait longtemps. Et c'est pour ça que, finalement, il arrivait très usé, voire inutilisable, du moins... Voilà. Et donc, il nous raconte aussi l'histoire de la rouille, du percement, de ces objets cassés. Et on peut se demander, mais quelle passion, quelle curiosité, quelle pathologie peuvent pousser un homme à donner toute son énergie, quasiment toute sa vie, à des objets sans valeur marchande. Et ça nous amène forcément à nous interroger quelle valeur il accorde à ces objets. C'est-à-dire qu'il est en train un peu de renverser aussi la hiérarchie de la valeur qu'on accorde à un objet. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est précieux, c'est justement ce qui a été considéré à une certaine époque comme non précieux. Hein. Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des objets uniques. Ce que vous allez trouver dans certains musées qui racontent éventuellement l'histoire des populations, y compris l'histoire paysanne ou artisanale, ce sont des objets particulièrement beaux, particulièrement uniques, parce que voilà, l'artisan était particulièrement doué, on n'en a pas beaucoup. Là, non, ce sont vraiment les objets qui ont été jetés parce qu'il y en avait des dizaines et des centaines, les mêmes, et qui ne servait plus. Hein. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Il ne nous montre pas l'invention unique d'un artisan de son époque. Pas du tout. Il nous montre les objets cassés, un peu moches, qui ne servent plus de tout le monde, de monsieur tout le monde. Hein. C'est vraiment ça, sa démarche. Donc, sans valeur marchande, et dont, en général, le commun des mortels essaye plutôt de se débarrasser. Finalement, ce musée Guattel, c'est un grand débarras. Hein. C'est un grand débarras, mais qu'il a ordonné, qu'il a mis en ordre d'une autre façon. Et nous dit Pietro Clemente, que je vous ai cité au départ, qui a été un de ces premiers chercheurs qui se sont mis à travailler sur le musée, en fin de compte, Ettore Guattel, il ne savait pas que sa passion c'était le musée. Il ne construisait pas un musée. Il collectionnait, il gardait et il vivait là. C'est-à-dire que sa première passion, en fin de compte, c'est une passion de curiosité pour les hommes, les femmes. Et ça s'appelle écriture. Hein. C'est une forme d'écriture poétique, comme il disait lui-même, une écriture publique. Et une passion qui peut-être est demeurée assez étrangère à lui-même jusqu'au bout. Une passion pour l'histoire des gens, pour la diversité des histoires et surtout pour ce qui est humble, simple, en fin de compte, et pour tout ce qui n'a pas laissé forcément de traces et auquel il voudrait accorder un statut particulier. Certains l'ont appelé le Sœur Teresa des choses. Je vous ai parlé du Louvre paysan, du maître chiffonnier. Vous voyez, à chaque fois, on le décale dans un autre registre. C'est ainsi que le musée, en fin de compte, il a été considéré, comme je vous ai dit, comme ce Louvre paysan, comme une cathédrale gothique érigée à la gloire d'une civilisation désormais engloutie. Je voudrais vous montrer, pour terminer, aussi son goût de l'ailleurs, parce que même s'il est resté quand même toujours finalement dans sa ferme et puis dans sa contrée, dans ses régions, eh bien, il y avait aussi ce rêve d'Orient, ce rêve d'ailleurs qui pouvait se confondre. Et là, je vous montre en particulier la fameuse pièce orientale, hein, qui est la chambre à coucher, et donc qui est une accumulation de boîtes de conserve, de boîtes en plastique, voilà, tout ce qui est boîte en fin de compte. Alors, j'ai pris, bon là c'est assez joli, mais si vous allez sur internet, que vous tapez musée Guatel, et vous allez voir parfois des choses avec des couleurs plus... Bon, j'ai essayé de prendre les plus grandes dimensions pour que ce soit pas trop flou, hein, mais vous pouvez trouver sans doute des reproductions plus belles. Donc la pièce orientale, et puis le clou du spectacle, la star, puisqu'elle a voyagé, c'est elle. Alors, qu'est-ce que c'est? La star incontestée de cette collection, c'est ce qu'il a appelé lo scarpone, la grosse chaussure en italien, la vieille godasse, comme je l'ai appelée. Vous le voyez, elle a vécu, elle est limée, elle est déformée, elle est reprisée. Au fil du temps, elle a fini par devenir finalement l'emblème du musée. Sa gloire est telle qu'elle a été exposée, elle a voyagé, elle est sortie du musée, elle a été exposée dans beaucoup de musées dans le monde, à l'étranger, et notamment, par exemple, en 2011, elle est venue à Paris au cours d'une exposition organisée par le Musée national des civilisations, de la civilisation de l'Europe et de la Méditerranée. C'était une exposition organisée par le CNRS, sponsorisée par EDF, il faut quand même le dire, et qui était proposée dans un parcours qui s'intitulait « Morceaux exquis ». Donc cette vieille godasse, elle voyage parce qu'elle raconte quelque chose. Elle raconte évidemment les pieds abîmés, peut-être douloureux, les pas de ces gens qui ont chaussé cette vieille godasse, qui sont aujourd'hui des anonymes, bien sûr, et qui ont marché sur ce territoire au point de l'user. Voilà. Sachant que, je vous montrerai autre chose après, pour Guatel, vous avez vu, il y a beaucoup de formes de chaussures pour les mettre en forme. Il y a du matériel de cordonnerie, il y a des formes pour les bottes, il y a des bottes, il y a des chaussures, des pantoufles, etc. Je dirais que, comme disait Primo Levi, la chaussure, c'est quand même un instrument, un outil de survie essentiel. C'est-à-dire que dans des conditions extrêmes, alors pour Primo Levi, vous le savez, c'est le camp de concentration, donc là on peut parler d'extrême parmi les extrêmes, il disait on peut mourir de chaussures, on peut mourir de pieds, disait Primo Levi. C'est-à-dire que si on n'a pas des chaussures, si on a des chaussures, par exemple, il raconte ça, qui font mal, on va avoir des pieds qui enflent, on va avoir des boursouflures, on va avoir des pieds tellement abîmés qu'on ne pourra plus travailler, on sera envoyé à l'infirmerie et peut-être même, évidemment, à la chambre à gaz. Hein. Donc, on peut mourir de pieds, on peut mourir d'être mal chaussé. Donc, sans aller jusque-là, je pense que nous raconte aussi cette histoire de chaussures, que la chaussure du paysan, bon, il faut être chaussé quand même, hein. il faut la réparer jusqu'au bout, parce qu'elle protège. Elle protège du froid, elle protège du gel, elle protège du chaud, elle protège du frottement contre la terre aride. Et donc, c'est un outil de travail. Et c'est un outil de vie et parfois de survie. Et donc, l'installation la plus touchante, je vous la montre là, ce n'est pas une installation d'Ettore Guattelli, mais c'est quelque chose qui poursuit son travail. C'est-à-dire que depuis que Ettore Guattelli est mort, le musée est devenu un musée, il se visite. Je vous ai dit, il y a des célébrités maintenant qui viennent du monde entier. Moi, quand j'y suis allée, je me suis retrouvée avec des Japonais, des Russes. Bon, j'étais étonnée de cette gloire, et je pense qu'il en serait étonné lui-même, même s'il y a un petit peu assisté. Mais c'est aussi devenu un musée qui continue à vivre avec des expositions temporaires. Et là, c'est une installation, justement, faite en l'honneur, entre guillemets, de Lampedusa. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé longtemps, de ce qui continue à se passer à Lampedusa, c'est-à-dire là où arrivent les bateaux des migrants, et où donc on retrouve un certain nombre de corps de migrants, parfois leurs chaussures, parfois leurs vêtements, etc. Donc ça, c'est une installation qui est composée à la fois de chaussures qui ont été retrouvées et de chaussures qui ont été données par des gens. Hein. Et vous voyez, c'est une installation que je trouve particulièrement touchante. Vous retrouvez l'installation avec les valises de Guattelli et qui résonne quand même forcément parce que c'est une installation qui devient une procession. Parce qu'elle est ordonnée, elle aussi, dans un certain ordre. Excusez-moi pour le pléonasme. Et on va y trouver toutes sortes de chausses, des godasses, des savates, parfois des tongs, des godillots, des pantoufles, tout. Hein, on va sur toutes sortes, tout ce qu'on peut mettre à nos pieds. Et évidemment, ça raconte symboliquement ce parcours des migrants pour essayer d'atteindre l'Europe et le poids des corps. C'est la trace sensible de ces corps qui, malheureusement, parfois ont disparu dans la mer, vous le savez bien. La trace sensible du vivant, du chemin parcouru. Et finalement aussi, étant donné qu'il n'y a plus que les chaussures et qu'il manque les pieds, eh bien, évidemment, ça raconte l'absence de ceux qui ont perdu la vie. Ce sont des objets pauvres qui conservent, métaphoriquement, je dirais, puisqu'il s'agit d'une installation, l'empreinte de ceux qui les ont usés au point de les faire devenir, je dirais, une partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en voyant cette installation faite de chaussures, on imagine, on fait surgir le corps de ceux qui les ont chaussés. Et c'est le corps de ceux qui les ont chaussés, eh bien, ce sont aujourd'hui justement les êtres qu'on ne voudrait pas voir, qui sont déconsidérés dans leur dignité d'être humain, et dont la mémoire, quelque part, est restituée. Ce sont un peu les lépreux, je dirais, les naufragés de Lampedusa, ceux aussi que, finalement, ce musée Guattelli, et non plus Guattelli lui-même, mais on a l'impression que, dans l'esprit, c'est quelque chose qui lui ressemble beaucoup, ceux qui peuvent être réhabilités, au moins symboliquement, dans la communauté des humains. Alors, pour conclure, je voulais conclure justement sur quelques paroles, hein, c'est-à-dire Ettore Guattelli, bon, ses dates, comment il nommait lui-même son musée, le musée de l'évident ou le musée du quotidien. Il disait que son musée invitait à faire une leçon de choses. Je vous rappelle qu'il a été aussi maître d'école, hein, donc sa leçon de choses à lui, eh bien, c'est cette organisation du musée. Et il faisait des fiches. Et il disait de ces fiches, je voudrais qu'elles soient tout autant proches des choses que des gens. Voilà une sorte d'amour, d'empathie pour l'objet, donc qu'il anime, en fin de compte, qu'il confère une sorte d'âme à l'objet. Et il disait aussi, je voudrais un musée de l'extrême hier à l'extrême demain. Et j'ajoute citation de Umberto Eco, donc, qui est allé visiter ce musée, qui a utilisé les images du musée, pour rappeler quelqu'un qui aussi était un historien italien, philosophe, qui s'appelait Piero Camporesi, et qui est justement celui qui allait regarder un peu ailleurs. Et donc, j'ai bien aimé la citation d'Umberto Eco, parce qu'il me semble qu'elle peut s'appliquer à quelqu'un comme Guattelli. Quand on lui demandait, mais qui est ce Piero Camporesi qui, en littérature, en art, va chercher les choses qui, en général, sont un peu mises de côté. Il répondait, c'est un monsieur qui entre dans une pièce où se trouve un tapis, au dessin et aux couleurs d'une grande beauté, et que tous sont considérés, toujours considérés comme une œuvre d'art. Lui, il le prend par un bout, le retourne, et il nous montre que sous le tapis, grouillaient des vers, des cafards, des larves, toute une vie inconnue et souterraine. Et c'est un peu à cette optique que nous invite, me semble-t-il, le musée Guattelli. Je voudrais terminer aussi par le fait que nombreux sont justement les artistes, les cinéastes. Vous irez sur le site, vous en verrez quelques-uns qui sont cités. Et notamment, pour ceux qui le connaissent, puisqu'on parlera art contemporain, Christian Boltanski, pardon. Vous pouvez penser notamment à l'installation des valises, j'imagine, peut vous faire penser fortement à Christian Boltanski. Et qui disait justement à propos du musée Guattelli qu'il a visité, les ressemblances entre ma poétique et celle de Guattelli, génial maître élémentaire, donc là il faisait référence au maître d'école, mais aussi à l'élémentaire bien sûr, génial maître élémentaire animé d'une passion du tout peut être utile, sont très nombreuses. Je vois des similitudes non seulement avec mon travail, mais avec celui de Duchamp ou de Spoerri. Comme je vous disais, bon, cet art qui consiste à mettre sous les projecteurs du musée l'objet manufacturé. Parce que Guattelli, lui aussi, comme eux, sort les objets de leur contexte. Il les réinvestit et les transforme. Il en fait des mausolées du passé. Il arrache à l'oubli, c'est toujours Boltanski qui parle, les échos de personnes appartenant à un monde mineur et qu'il est seul à recueillir à son époque. Et là, je vous ai remis, un peu pour terminer, en regard, si vous voulez, cette considération pour un monde mineur, justement, et finalement, les termes un peu hyperboliques qu'a pu susciter le musée quand il s'agissait de cinéastes, d'artistes, d'écrivains qui l'ont visité et qui ont dû s'exprimer, donner leur opinion sur le musée. On a parlé, donc, comme je vous le disais, de mausolées, de Louvre paysan, de cathédrales gothiques, de musées sacrés, de métamusées, d'hypermusées. Ça, je crois que, bon, il y a Werner Herzog aussi qui fait des commentaires intéressants, de pavillons de l'Italie au sens, vous savez, qui pourrait représenter l'Italie, par exemple, à une exposition universelle. Alors, ah oui, ben je vous montre là la dernière photographie. Donc là, c'est la ferme, en fait, telle qu'elle est devenue. Donc, c'est une ferme d'une grande banalité. Hein. Quand on arrive là, on voit des champs, une ferme. Voilà, il n'y a pas, des néons qui indiquent le musée. Il faut le trouver un peu, hein, parce qu'en plus, il a fait des émules. Alors, tout autour, je dis, ah ben ça y est, c'est là, parce qu'il y a d'autres paysans autour qui sont mis aussi à disposer leurs objets. À chaque fois, on se dit, c'est là. Non, c'est pas là, pas forcément.